Salut, j'espère que vous passez un bel été. La personne dont je vais vous parler aujourd'hui avait une règle assez absurde en soi, elle annonçait les vols qu'elle allait faire à l'avance. C'est un petit peu courageux et ça ne l'a jamais trahi, au contraire. Alors, je vais faire exactement pareil, en toute transparence, en vous disant que les 60 secondes qui arrivent, c'est pour le partenaire de la vidéo. Voilà, vous êtes prévenus et je vais même parier que vous allez quand même rester, vous allez voir. Ce partenaire, c'est Mahmoud Ali et le principe est tout simple. Au lieu de vous enfermer dans une seule intelligence artificielle, Mahmoud réunit les meilleurs modèles dans une même interface, donc Claude, ChatGPT, Mistral, Gemini, DeepSeek, Perplexity, et côté image, vous avez Flux, Nano Banana, Recraft par exemple, et vous payez 10 euros par mois et vous avez accès à tous les modèles et vous pouvez ensuite les challenger entre eux quant à la réponse, sans avoir plusieurs abonnements. Et ça marche très bien, vous pouvez aussi créer des mammouths personnalisés. C'est marrant dit comme ça, avec des instructions sur mesure. Je vous mets le lien en description. Merci à Mahmoud Ali. Et maintenant, imaginez une seconde que vous protégiez un président des États-Unis. Vous êtes un agent des services secrets entraîné depuis des années à n'importe quelle menace. Et ce soir, on vous a même prévenu que ça allait arriver, que l'homme qui marche vers vous, là, en souriant, il va essayer de vous voler. Vous le savez, vous le lâchez pas des yeux et il vous dépouille quand même. Il prend votre badge, votre montre, les clés du convoi présidentiel et même l'itinéraire confidentiel du président. Je parle d'un document où vous n'avez même pas, vous, l'autorisation de lire. Voilà, je vous avais prévenu, vous êtes toujours là et c'est exactement le sujet du jour. On peut vous dire précisément où regarder et vous faire rater l'essentiel quand même. Demandez donc au service secret américain. Allez, installez-vous, je m'appelle Fabien Licard et vous regardez All Thread. Cet homme s'appelle Apollo Robbins et l'histoire qu'on raconte partout sur lui, à savoir qu'il a été le pickpocket qui a volé le président des États-Unis, est fausse. En fait, c'est mieux que ça, la vérité est pire. Déjà, il n'a pas volé le président, mais il a vidé les poches des hommes dont le métier complet est justement d'empêcher qu'on approche du président des États-Unis. Alors gardez bien trois questions en tête, parce que ce sont elles qui vont faire tout basculer. D'abord, comment on peut voler ce genre de choses? Ensuite, comment ce soir-là, l'une de ses victimes va-t-elle finir par l'aider à dépouiller toutes les autres? Et enfin, la plus dingue de toutes, comment l'homme qui possède aujourd'hui les mains les plus rapides du monde est-il né incapable de contrôler ses mains? Et je n'exagère pas, il n'arrivait même pas à frapper trois fois dans ses mains comme ça. En restant jusqu'au bout de la vidéo, vous allez comprendre quelque chose sur ce que votre cerveau est en train de rater en ce moment même pendant que vous me regardez. Apollo Robbins, c'est donc un pickpocket, vous l'avez compris, enfin c'est pas que ça, mais c'est un pickpocket et sûrement l'un des pickpockets les plus redoutables qui est sur Terre, et sa légende justement à une époque était connue dans le monde entier, peut-être moins aujourd'hui. C'est pour ça que je vous donne un petit peu de contexte. Et comment on devient l'homme aux mains les plus rapides du monde? Eh bien par l'inverse de ce qu'on aurait pu imaginer au départ. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il avait un problème aux mains. Il naît le 23 mai 1974. C'est un de nos contemporains, Apollo Robbins, à Plainview, au Texas. Et sa venue au monde est une succession de catastrophes médicales. Déjà pendant la grossesse, il a eu des tumeurs qui se sont développées dans l'utérus de sa mère. Et les jambes du fœtus ont grandi en s'enroulant autour de ces masses-là. Ce qui fait qu'il est venu au monde avec des jambes tordues et qu'il a porté des haltères métalliques. Et quand il parle de son histoire, il dit que c'est un peu l'image qu'on peut avoir de Forrest Gump dans le film, c'est un peu ça. Et manque de bol, en plus, il a une incompatibilité sanguine qui impose dès la naissance une transfusion en urgence pour le maintenir en vie. Bref, il n'a pas un beau destin devant lui à ce moment-là. Mais le plus lourd pour la suite de notre histoire, c'est que le petit Apollo souffre de graves troubles de la motricité. La motricité fine, hein. Par exemple, si j'attrape cette télécommande, c'est de la motricité fine et globale. Il n'arrive pas à coordonner ses gestes entre eux. Comme je vous l'ai dit, frapper dans ses mains, ne serait-ce que trois fois d'affilée, ça ne lui est pas possible. Tous les enfants le font, bah, pas lui. Pour apprendre à écrire, il doit utiliser un crayon d'un énorme diamètre et ses rééducateurs l'obligent à le faire avec ses deux mains jusqu'à 7 ou 8 ans, les sources disent. Pas tout à fait la même chose là-dessus. Alors après, c'est peut-être là toute la beauté de son histoire, à savoir que sa dextérité de base, c'est pas un don. C'est plus que du travail, c'est une reconstruction, c'est un apprentissage, c'est le produit d'années de rééducation acharnée, d'une grosse volonté de sa part, et Robbins va en tirer sûrement la leçon de sa vie, parce qu'à force de se battre contre son propre corps, il a développé une endurance, une obstination, qui vont lui permettre bien plus tard d'acquérir, par le travail, hein, des compétences que tout le monde croit innées chez lui. C'est ça que je trouve beau peut-être. Hein. Mais des mains rapides, ça suffit pas pour devenir Apollo Robbins. Il lui fallait aussi un cerveau câblé d'une certaine manière. Vous allez comprendre, ce cerveau-là, il le doit à deux mondes qui n'auraient jamais dû coexister ensemble. Ça, c'est un pléonasme d'ailleurs. D'un côté, il y a son père. Son père, c'est un homme qui est devenu aveugle très jeune à la suite de problèmes médicaux, à une méningite. Il est devenu pasteur itinérant, donc il prêchait un peu partout. Il prêchait dans des laveries automatiques, par exemple, et dans les quartiers défavorisés. Et cet homme aveugle va apprendre à voir à son fils qui, lui, est pourtant voyant. Ce que je veux dire, c'est que Robbins a raconté que pendant leur promenade, par exemple, son père lui lançait des défis, il lui disait « Trouve, dans un rayon de quelques pas, tous les petits mondes invisibles qu'on n'est pas censé voir et tu me les décris. Les petits mondes invisibles, c'est par exemple, je ne sais pas moi, une sauterelle qui est sur une feuille, on serait passé à côté, ce genre de choses. Il lui aurait même appris à attraper un lézard, pas en courant après, hein, mais en anticipant la trajectoire que le lézard prendrait autour d'un arbre. Vous voyez l'idée ? Son père lui apprend à prédire le comportement des autres. Alors d'abord des animaux, mais il lui apprend à se mettre à la place de l'autre, à changer de point de vue. Et c'est exactement le cœur de ce qui va faire de lui bien plus tard le maître mondial du pickpocket. Et comme son père est aveugle, le petit Apollo lui sert de regard. Il devient littéralement les yeux de quelqu'un d'autre et c'est difficile quand même, je crois, de trouver un meilleur entraînement pour voir le monde à travers une autre perception que la sienne. Mais je vous ai dit, deux mondes qui coexistaient, c'est parce que de l'autre côté, il y a ses demi-frères. Alors eux, ils sont de l'autre côté de la loi. Ils font des petits larcins au début, hein, mais ils détroussent quand même des gens. Par exemple, les gens qui se penchent au-dessus des enclos du zoo, ben, là, ils leur font les poches à ce moment-là, ou dans les gradins des stades, dès que les gens ne font pas très attention finalement. Et puis après, ils vont vers des trafics plus lourds, ils vont initier Apollo au rudiment du vol à la tire. Là, c'est plus dangereux. Alors le dimanche, il y a le sermon, la semaine, le vol à la tire. Et c'est dans cette dualité que va naître, je crois, un avantage décisif pour lui, parce que la plupart des voleurs débutants, ils se font prendre à cause de la connaissance coupable. Je vous explique ce que c'est. C'est cette petite angoisse, le petit stress en fait du fautif qui transpire dans le corps, qui trahit le geste. Je vous donne un exemple concret. Je travaillais pour ma part au Festival de la bande dessinée à Angoulême et je devais surveiller, il y a des années de ça, hein, il y a plus de 20 ans, que personne ne vole justement les bandes dessinées qui allaient être dédicacées ensuite sur le stand des éditions Soleil. Eh bien, tous ceux que j'arrivais à avoir, à arrêter, c'est tous ceux qui avait ce petit truc coupable en fait, qui hésitait en fait la fraction de trop. Ceux pour qui je pouvais rien faire, c'est ceux qui arrivaient, qui prenaient une BD, ils faisaient demi-tour et ils partaient. À cette époque, on n'était pas assez nombreux pour gérer et j'allais pas lui courir après et laisser le stand tout vide. Donc finalement, lui, Apollo Robbins, c'était plus dans la deuxième catégorie. Vous voyez, il a grandi à cheval entre le sacré et le criminel, donc il n'a pas tellement peur en fait. Il sait gérer les deux. Il ose des manipulations qui auraient sûrement terrifié n'importe qui à l'époque. Et donc très jeune, il a même des réflexes qui montrent qu'il est déjà super malin. Je vais vous raconter une anecdote. Lors d'un vol de cigarettes, il se fait prendre et il y a l'homme qui va le fouiller pour récupérer son paquet de cigarettes, quoi. Et pendant que l'homme le fouille, lui va glisser discrètement le paquet de cigarettes dans le tablier de l'homme qu'il fouille. C'est-à-dire, il le remet en place le temps de la fouille. Vous avez bien entendu, hein, il cache l'objet qu'il a volé au gars sur le gars pendant que le gars le fouille et ensuite il le récupère. Et ça, toute sa vie, ça va être sa signature. Jusqu'à, et on va en parler dans quelques instants, transformer un casino de Las Vegas en véritable laboratoire du pickpocketisme. Et c'est ce labo qui va lui donner les armes pour, je vous le rappelle quand même, humilier littéralement les services secrets américains. Alors ce labo, à la fin des années 90, Robbins décroche un engagement au César Palace dans un spectacle. Il va y travailler de 1998 à 2002. L'idée de Robbins est brillante. Par groupe d'environ 24 personnes, les spectateurs patientent une dizaine de minutes avant de passer à la salle suivante en fait. Il y a une espèce de show-off avant de rentrer dans le spectacle. Et pendant ce petit intervalle, Robbins leur fait des poches. Donc il va dérober discrètement les affaires de plusieurs spectateurs qui vont réapparaître évidemment plus tard dans le spectacle, qui vont eux-mêmes aller voir, et il en choisit un qui va détrousser intégralement sur scène, en live, des vrais numéros de pickpocket, et ensuite il va tout rendre. Apollo Robbins, il estime qu'il a fait les poches de plus de 80 000 personnes rien que sur cette période-là au César Palace à Vegas. C'est le nombre en tout cas rapporté dans le New Yorker que j'ai pu lire et je vous le mettrai d'ailleurs en description. Et il parle même d'un quart de million de personnes sur l'ensemble de sa carrière de 150 000 personnes à qui il aurait fait des poches. Tu m'étonnes que le gars est bon après. Alors attention, ce sont ses propres estimations donc il faut les prendre comme telles. Mais quel que soit le bonheur de grandeur, on parle quand même d'un entraînement industriel. Et ce volume va transformer la scène du César en labo, comme je vous disais. Apollo Robbins va tenter des choses qui sont pas si courantes dans le monde du pickpocket. Il dit, est-ce qu'on peut retirer les lunettes de quelqu'un qui les porte sur le nez et qui ne sait pas voir sans? Et il va le tenter jusqu'à ce qu'il réussisse à la perfection. Est-ce qu'on peut prendre la ceinture d'une personne sans qu'elle s'en rende compte? En gros, pourquoi je parle de labo et de science? Parce que Apollo Robbins, je ne sais pas s'il conscientise, mais il cherche où sont les limites de l'attention humaine. Et des milliers de répétitions chaque jour vont lui permettre de cartographier empiriquement, évidemment, pas scientifiquement, les failles du cerveau. Ce que je veux dire, c'est que ça se passe des années avant que la science ne s'intéresse vraiment à ça. Petit détail au passage, Apollo, c'est même pas son vrai prénom, c'est un prénom qui s'est choisi parce que quand il était adolescent, il faisait tourner un frisbee sur un doigt et c'était un frisbee de la marque Apollo. Il va mettre là-bas sur scène son principe le plus contre-intuitif, celui qui inverse en fait un peu la règle du métier de pickpocket, parce qu'un pickpocket, normalement, c'est quelqu'un qui vit dans le secret. Il dit pas ce qu'il va faire, sinon on est trop vigilant. Donc sa survie, elle tient au fait qu'on ne sache pas qu'il est là, le pickpocket, comme dans le métro à Paris. Or, Robbins, il fait l'exact inverse, il annonce le vol. La personne qui monte sur scène, il la regarde dans les yeux, c'est incroyable, et lui dit dans 3 minutes, je porterai votre montre, essayez de m'en empêcher. On peut penser que prévenir la victime, ça la protège, qu'elle va redoubler de vigilance, et bien là, c'est le contraire. En fait, en annonçant la menace, il concentre toute l'attention de la personne sur le mauvais point, c'est-à-dire qu'elle focus sur la montre, elle surveille la montre comme un dragon qui surveille son trésor, et pendant ce temps, eh bien, la personne, elle devient aveugle à tout le reste. Donc, elle se fait alléger sans le savoir de tout le reste. Avant de nous parler des services secrets, ce que je trouve fort, c'est que d'un point de vue personnel, hein, c'est qu'il a échangé l'effet de surprise du pickpocketisme contre le suspense dans le pickpocketisme. C'est hyper culotté. Peut-être un des meilleurs exemples que je pourrais vous donner, c'est le jour où il s'est attaqué à un homme qui méprisait ouvertement les pickpockets. Hein. Il s'appelle Penn Jillette. C'est l'une des plus grande légende vivante, je pense, dans le milieu de la magie. Vous le connaissez peut-être, il a un duo qui s'appelle Penn & Teller, ils ont une émission qui s'appelle Folos. Et dans un rassemblement de magiciens, il y a des congrès à Las Vegas, eh bien Gillette l'a défié alors qu'il était en short et en t-shirt. Il dit « Qu'est-ce qu'on pourrait me voler là ?» Et Robbins refuse le duel frontal et propose plutôt un tour. Il demande à Gillette de retirer sa bague et de tracer le contour de sa bague sur un papier avec son propre stylo. Il enlève sa bague, il sort le stylo de sa poche, mais ça n'écrit pas. Il n'arrive pas à écrire, en fait, avec le stylo. Et Robbins lui fait voir, dans ses mains à lui, un petit cylindre de plastique. C'est la cartouche d'encre du stylo de Gillette. Il avait vidé le stylo de Gillette, probablement avant que Gillette le défie, et surtout sans qu'il s'en aperçoive, ça veut dire qu'il a enlevé le stylo, qu'il a pris la cartouche, qu'il a remis le stylo. Il n'a rien vu. Et un soir, on prévient Robbins qu'un ancien président des États-Unis d'Amérique va passer dans l'établissement où il se produit et que les services secrets, évidemment, seront là un petit peu partout. Et vous allez voir qu'on va lui adresser une consigne assez spécifique. Un mot avant de vous raconter ce qui s'est passé, parce que c'est devenu légendaire et les légendes, ça s'embellit toujours un petit peu. Et les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que j'ai changé de tenue, qu'on est un autre jour, parce que Apollo Robbins avait volé la batterie de mon micro et on n'avait pas le son sur la fin. Alors le cœur de l'histoire est solide, hein, j'ai pu lire des confirmations, des sources croisées comme l'enquête du New Yorker par exemple. Par contre, les dialogues, les coulisses, la mécanique exacte, bah, c'est surtout Robbins qui les raconte. Donc, je vous retranscris ça, mais il faut quand même garder un œil critique. La direction du César lui interdit formellement d'approcher du président, lui serrer la main et surtout de ne rien lui voler par crainte d'un incident qui éclabousserait à terme le casino. Et Robbins se dit que si on lui a interdit de toucher au président, on lui a rien dit concernant les gardes du corps. C'est quand même juste les gars des services secrets, je vous le rappelle. Et il s'impose une règle, celle de ne jamais toucher aux armes des gardes du corps et des agents des services secrets parce que c'est un crime fédéral. Et bien sûr, si ça se passe mal et qu'il se fait plaquer par les agents au sol, ce sera son problème. Le casino ne va pas couvrir ses agissements. Je vous raconte la scène. Il s'avance vers les agents et sachez que eux, ils savent exactement qu'il est. Ils ont été prévenus, ils ont eu les photos, ce sont les services secrets. Donc, il l'accueille assez froidement en lui disant « il va rien se passer ». Et Robin sourit et corrige en répondant, je vous le fais en français, le mot que vous cherchez, c'est pas encore, not yet. Alors comment il va faire? Eh bien sa méthode, elle repose sur une lecture très fine de l'espace personnel, hein, de ce qu'on appelle la bulle, je vous avais fait des vidéos là-dessus sur la chaîne secondaire, la bulle de proximité de chaque personne. C'est un peu comme un œuf selon Robbins, c'est large à l'avant, donc on n'arrive pas à le franchir, c'est étroit sur les côtés, donc il y a peut-être moyen, et c'est très peu profond dans le dos. On peut donc s'y infiltrer dans le dos à condition de rompre le contact visuel et d'aborder par le flanc où c'est plus fin. Quand il avance vers le premier agent, celui-ci va reculer légèrement, c'est normal, c'est un réflexe de protection, mais avec ce petit recul et un léger effleurement de la part de Robbins, Robbins peut en déduire l'emplacement exact de l'arme sous la veste d'un côté précis. Et au lieu de cacher qu'il a repéré ça, il fait sa technique habituelle, il verbalise, donc il va complimenter l'agent sur son entraînement, ça va désarmer un peu, pas beaucoup, sa méfiance, et il va se tourner vers le second agent qui lui est complètement inflexible. En lui faisant face, il va capter son attention. Donc il est face au mur, vous savez, de la bulle. Et pendant ce temps, le premier agent, qui pense que lui, la démonstration, elle est terminée sur lui, eh bien, il va lui offrir, sans le savoir, un accès parfait par le côté. Donc, Robbins parle au deuxième agent, il passe la main sous son propre bras, plonge à l'intérieur de la veste du premier agent qui est à côté de lui face au deuxième agent, et il va en retirer les accréditations personnelles et d'autres effets encore. L'autre agent, lui, il voit rien, il fixe l'autre main de Robbins qui est en train de s'approcher de lui. Et on lui a dit ça en entraînement, on lui a dit « vous ne lâchez pas ses mains du regard, c'est un grand professionnel ». Mais l'essentiel se joue ailleurs, c'est déjà dans la poche de l'autre, dans les angles morts. Et arrive le clou de la scène, Robbins va déplier devant eux un papier qui sort soi-disant de sa veste mais qu'il vient d'extraire de la veste de numéro 1, c'est l'itinéraire confidentiel du convoi présidentiel. Alors il y a un des agents qui va commencer quand même à réaliser la gravité de la chose et qui va lui arracher d'un geste très sec en disant « vous n'avez pas l'autorisation de voir ça ». L'agent glisse instinctivement la main vers son assigne à l'intérieur de sa veste, donc c'est l'agent qui est à côté. Hein. Sa main va trouver du vide. Et avec un flegme absolu, Robbins lui tend l'insigne qu'il cherchait, puis se tourne complètement vers lui qui est finalement le chef du dispositif et lui restitue un par un ses trophées. Donc il y a sa montre, il y a son badge, je vous l'ai dit, il y a les clés du convoi présidentiel. Et la vraie chute, et c'est vraiment Robbins qui le raconte, c'est ce qui suit, vous allez voir que le premier agent, vexé, refuse d'être le seul humilié de la soirée, il attrape sa radio et il envoie Robbins faire les poches des autres équipes du dispositif. C'est-à-dire que la cible est en train de se transformer d'elle-même en complice. Et maintenant, le passage que je préfère, parce que cette histoire, elle est racontée un petit peu partout, je ne sais pas si vous l'aviez entendue avant que j'en parle sur cette chaîne, mais elle a fait le tour du monde, et elle est en partie fausse. C'est ça qui me passionne souvent dans les All Threads, c'est de voir comment un vrai fait va se déformer un petit peu pour devenir une légende, et un peu plus à chaque fois qu'on le répète, comme j'avais fait d'ailleurs une vidéo sur Jordan Belfort, le loup de Wall Street, ou encore sur le personnage principal du film Attrape-moi si tu peux, qui inspirait d'une histoire vraie, mais l'histoire vraie était fausse finalement. Je vous ai fait une vidéo All Threads là-dessus, je vous invite à la regarder. Il y a deux choses là, ici à rétablir en tout cas. Un, c'était pas le président en exercice, contrairement à ce qu'on dit souvent. Je vous l'ai dit qu'une seule fois dans la vidéo, dans la partie 1 ou 2, je sais plus, mais après je l'ai jamais redit, l'homme dans le bâtiment ce soir-là, c'est Jimmy Carter, un ancien président. C'est pas moins important, mais quand même. Et Robbins n'a jamais volé Carter lui-même, contrairement à ce qui se raconte des fois, puisqu'il avait une interdiction formelle d'approcher l'ancien président. Il a dépouillé les agents. Alors la nuance, ça diminue en rien l'exploit, c'est incroyable. C'est peut-être même plus incroyable encore, je trouve. Deux, à force d'être raconté, l'histoire, elle a grossi, elle a enflé. Il y a certaines versions qui prétendent qu'il aurait vidé les armes de leurs balles et ou qu'il aurait été aussitôt recruté par le gouvernement. Alors, désolé, mais tout ça, il n'y a rien qui le confirme, en fait. Déjà, si, il n'a jamais touché aux armes, on le sait, à cause du fait que ce sera un crime fédéral, et tous les récits sérieux, d'ailleurs, l'affirment. Et ce qui s'est réellement passé, c'est plutôt documenté, c'est pas un recrutement secret des services secrets, mais il y a des forces de l'ordre qui l'ont contacté après coup pour comprendre sa méthode, et ça, c'est déjà pas mal. Donc après une démonstration comme ça, on pourrait se dire que ça va mal finir. Sauf que cette nuit-là, ça n'a pas mené Apollo Robbins en prison, ça l'a mené dans un laboratoire de neurosciences. Après cette scène avec les services secrets, le téléphone de Robbins va se mettre à sonner. Donc des forces de l'ordre, des services de police qui veulent comprendre comment il l'a fait et comment font les pickpockets. Parce que ce qui est arrivé aux agents du président, ça arrive aussi pour de vrai aux policiers. C'est-à-dire, pas forcément du pickpocketisme, mais d'avoir l'attention détournée. Il y a une étude qui est restée pendant assez longtemps un petit peu secrète. Des chercheurs ont placé une arme en évidence sur le tableau de bord d'une voiture lors d'un contrôle routier qui était simulé pour l'expérience. Okay, donc le but des policiers, c'était juste de montrer comment ils faisaient un contrôle routier. Bon, le résultat, c'est que un tiers, donc 33% des officiers expérimentés et près de 6 recrues sur 10, quand c'était des recrues, n'ont pas vu l'arme sur le tableau de bord. En fait, ils étaient concentrés sur le conducteur et sur la mission, c'est-à-dire contrôle d'identité des papiers, ils sont passés à côté d'un pistolet pas caché, en pleine lumière, sous leurs yeux. Ce phénomène, il porte un nom en psychologie, c'est la cécité d'inattention. Ça a été démontré par une expérience qui est devenue mythique, celle du gorille invisible, je vous spoil en le disant, mais ça, c'est pas très important. L'expérience a été menée par Daniel Simons et Christopher Chabris en 1999. On demande à des spectateurs de compter les passes de ballon dans une vidéo où il y a deux équipes de basket. Donc, ils doivent compter les passes d'une équipe spécifiquement. Et au milieu de la scène, il y a un homme qui est déguisé en gorille qui traverse tranquille, hein, court pas. Il se frappe la poitrine et il repart. 50% des gens ne le voient pas parce qu'ils sont en train de compter les passes. Je pourrais vous parler d'ailleurs du mécanisme de la cécité d'inattention pendant très longtemps, si vous voulez, on pourra faire une vidéo détaillée, mais entre le nerf optique qui donne deux taches noires au milieu des yeux, le reste est reconstruit par le cerveau, entre le fait que notre attention, en fait, c'est un tel focus qu'au-delà de la zone que je suis en train de décrire, on voit flou autour, en réalité, que l'œil fonctionne par saccades, parce que sinon, on verrait du flou en permanence, et que chaque saccade, c'est comme du noir, que le cerveau remplace par la première autre image qu'il verra, donc on ne se souvient pas de ce qu'on a vu, et on n'a même pas de bâtonnet de couleur sur les côtés, donc on voit un noir et blanc, et la couleur, en fait, elle est simulée par le cerveau, et c'est un résidu de notre mémoire. Bon, bref, on ne voit pas. Et c'est exactement dans cet ailleurs qui n'est pas vraiment éclairé par l'attention que travaillent les voleurs comme Apollo Robbins. Alors Robbins va formaliser tout ça. Il va finir par rencontrer deux neuroscientifiques du Barrow Neurological Institute en Arizona. Ces deux chercheurs ont une intuition. Ils se disent, et si les magiciens et les pickpockets maîtrisaient intuitivement des concepts sur l'intention que la science ne sait pas encore modéliser? Le résultat est publié en 2008, un article dans Nature Reviews Neuroscience. Et tenez-vous bien, Apollo Robbins est notifié comme co-auteur. On parle d'un voleur, alors après qui est devenu plus artiste que voleur, qui est dans une revue scientifique de très haut niveau, à côté de légendes d'ailleurs de la magie, parce qu'il y a James Randi là-dedans, il y a Taylor dont on a parlé, il y a Backing. Mais le sommet, c'est même pas ça, c'est l'expérience suivante, parce que Robbins, lui aussi, avait une intuition assez précise, née de ses dizaines et voire centaines de milliers de vols. Il a observé que la manière de bouger de la main change tout. Lui, il a observé intuitivement qu'un mouvement en ligne droite, donc du point A au point B, par exemple comme ça, comme ça, comme ça, ça va faire rebondir le regard. C'est-à-dire que si je fais ce geste-là, eh bien, l'œil a tendance à suivre la main et à revenir aussitôt au point de départ pour checker, un peu comme un élastique. En revanche, il a remarqué qu'un mouvement courbe et plutôt vers la hauteur capture le regard sur toute la trajectoire, on ne revient pas en arrière. Si on fait ça, on revient au point de départ pour voir ce qui se passe. Si on fait plus un mouvement courbe comme ça, eh bien, on y fait moins attention. Alors en 2011, les chercheurs décident de mettre cette intuition, pourquoi pas, à l'épreuve. Et l'étude est faite et le résultat paraît dans Frontiers in Human Neuroscience. On filme Robbins qui exécute un French drop, donc c'est un classique où il y a une pièce, on fait semblant de la faire passer d'une main à l'autre avant de disparaître. Et grâce à un système d'eye tracking, ils vont suivre image par image le regard des sujets selon que la main bouge en ligne, droite ou en courbe. Je vais vous le faire avec un diamant. Alors le French drop, c'est ça. J'ai ce diamant et je le passe dans la main. Donc il est vraiment dans la main, il n'y a pas de doute. Le French drop, c'est on refait exactement la même chose, mais il ne passe pas dans la main, il reste dans l'autre main. Ok, c'est ça le French drop. Eh bien, quand on fait en ligne droite, c'est-à-dire comme ceci, l'œil a tendance à bien suivre cette main, mais à revenir checker un petit peu ce qui s'est passé ici. Alors que l'eye tracking va montrer que si lors du French drop, je vais le faire un peu plus bas, que ce soit bien cadré, la main qui contient ou qui est censé contenir, fait cet arc de cercle que je viens de faire, eh bien, on s'intéresse beaucoup moins à celle-ci. Encore plus si l'arrondi monte et qu'en même temps, l'autre main descend discrètement comme un relâchement naturel, ce qui donne à vitesse réelle quelque chose comme ça, qui fait que ça a disparu et que l'autre main a eu le temps de mettre ce qu'il fallait dans la poche et on peut même faire réapparaître le diamant. C'est important de mesurer la portée de tout ça. Il y a un voleur qui n'avait pas de diplôme et juste à partir de ses observations empiriques répétées sur ses dizaines de milliers de victimes, il a formulé une hypothèse vérifiable sur le fonctionnement de l'œil humain et du cerveau humain. Et par la suite, Robbins va donner des conférences devant des milliers de chercheurs réunis par la Society for Neuroscience au MIT et à la Harvard Kennedy School. Parce qu'aujourd'hui, Apollo Robbins ne vole plus pour épater la galerie, bien sûr, du vol. Il est passé au divertissement, puis à la pédagogie de l'esprit critique. Il aime bien citer une idée de l'historien Daniel Borstein qui disait « Le pire ennemi de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, c'est l'illusion de la connaissance. » C'est comme on a l'impression d'avoir connaissance de notre environnement, et bien c'est comme ça qu'on se fait avoir. La prochaine fois que vous serez sûr d'avoir tout remarqué dans votre environnement, peut-être vous vous souviendrez de lui ou du test du gorille. Ça vaut le coup de se demander en permanence ce qui est en train de vraiment se passer quand on est en public comme ça et qu'il se passe des choses, qu'on nous parle beaucoup, qu'on nous attire l'attention. Merci à Mahmoud AI d'avoir sponsorisé la vidéo. Si vous en avez assez de regarder le monde avec un seul modèle d'IA ou de payer à chaque fois pour accéder à plusieurs LLM, je vous recommande de tester par vous-même. Le lien Mahmoud est en description. C'est à partir de 10 euros par mois. Ça peut vous aider à changer de perspective. Je vous recommande, grâce à cette vidéo, votre lecture de l'été qui sera peut-être Bien dormir, c'est possible même pour vous. C'est mon livre sur le sommeil. Je vous ai fait une vidéo sur ma chaise secondaire. Si vous voulez en savoir plus, je vous la mettrai en description. Mais c'est disponible partout, chez tous les libraires, grandes enseignes comme Fnac, Cultura, Amazon, etc. Et même disponible en livre audio, lu par votre serviteur. Je m'appelle toujours Fabien Licard. À très bientôt. Ciao.